Maintenant, je vais passer à la présentation de notre conférencière de ce soir, Raphaël Branche. Raphaël Branche est née le 14 juillet 1972. Elle est enseignante à l'Université de Marne-la-Vallée et chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est dépend aussi du CNRS. Elle est agrégée d'histoire, elle est docteure en histoire contemporaine, où elle a d'ailleurs fait une thèse sous la direction de Jean-François Sirinelli qui s'intitulait « L'armée et la torture pendant la guerre d'Algérie, les soldats, leurs chefs et les violences illégales ». Elle est donc spécialiste de la question de la torture pendant la guerre d'Algérie. Elle a publié de très nombreux articles dans des revues nationales et internationales spécialisées. Et enfin, elle a publié deux ouvrages. Tout d'abord, « La guerre d'Algérie » avec Sylvie Thénault à la documentation photographique, la documentation française en août 2001, et La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie 1954-1962, Gallimard 2001. Raphaël Branche, je vous cède la parole pendant une cinquantaine de minutes, après quoi suivra le débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Merci, je suis désolée pour mon retard. Je souhaitais donc aujourd'hui non pas vous parler de la pratique de la torture par l'armée de la République sur le territoire algérien, qui est chose avérée. Dès l'époque de la guerre, des témoignages existent sur ce sujet. Des rapports sont communiqués régulièrement aux responsables politiques, de Pierre Mendès France à Charles de Gaulle, pour les en informer. Ce que je vous propose d'éclairer aujourd'hui, c'est donc moins la pratique de la torture que la manière dont cette violence interdite par la loi, interdite par le droit, a été prise en compte, considérée par les hommes politiques français pendant toute la période. Donc les questions autour desquelles tourne cet exposé seront: est-ce que les principaux représentants de l'autorité politique française étaient informés de la pratique de la torture et que savaient-ils? Quelles ont été leurs attitudes et peut-on repérer une évolution au cours de la guerre? Il faudra bien sûr se demander si l'armée, instrument dans les mains des politiques, a été incitée à mettre un terme aux violences illégales développées en son sein, ou si, au contraire, elle a été encouragée à les continuer, et dans ce cas, dans quelles conditions. L'analyse de cette attitude ne peut cependant pas se focaliser exclusivement sur la torture. Pour être bien comprise, cette violence doit toujours être resituée dans le contexte plus général des violences caractéristiques de cette guerre, côté français comme côté algérien. Comme vous le savez donc, la France n'est pas en guerre en Algérie, et l'Algérie est française. C'est en tout cas ce que répètent régulièrement les hommes politiques français à cette époque. Pourtant, dès novembre 1954, ce sont bien des unités militaires qui sont envoyées dans ces départements français où des attentats coordonnés ont eu lieu. Dans ce qui ne devrait être que le prolongement de la France, des revendications d'indépendance sont portées par un groupe alors inconnu des services français, le Front de Libération Nationale, ainsi que par d'autres nationalistes réunis notamment dans le mouvement national algérien. Les attentats organisés par le FLN visent à déstabiliser la présence française en Algérie, sans porter particulièrement atteinte aux civils, en tout cas dans un premier temps. Les nationalistes s'efforcent d'étendre leur influence principalement au sein de la population algérienne. Des maquis sont organisés et contre eux, des troupes françaises sont augmentées régulièrement, des contingents disponibles, au printemps 55 en particulier et au printemps 56 avec l'appel aux appelés. Dès le mois d'avril 1955, c'est l'état d'urgence qui est décrété dans les arrondissements d'Algérie sur proposition du président du Conseil, Edgar Faure. Les préfets d'Algérie reçoivent alors le droit d'instaurer un couvre-feu, d'interdire ou de réglementer le séjour de certains individus qu'ils jugent inopportun d'avoir sous leur territoire. Le gouverneur général d'Algérie reçoit le pouvoir de fermer des lieux de réunion, d'autoriser des perquisitions de nuit, de contrôler les médias et il peut décider de l'assignation à résidence de toute personne dont l'activité est jugée, je cite le texte, « dangereuse pour la sécurité et l'ordre public ». Enfin, la loi permet de remettre à la justice militaire le jugement des inculpés relevant des cours d'assises, ce qui vise implicitement les nationalistes algériens suspectés ou convaincus d'attentats en tout genre. L'état d'urgence, d'abord cantonné à quelques arrondissements, est rapidement étendu. Dès le mois de mai, il est étendu à tout le département de Constantine, à quelques arrondissements du centre du pays, puis à l'automne 55, à l'ensemble du territoire algérien. Ainsi, la guerre atteint d'emblée la population civile algérienne, dans ses biens, dans sa liberté, mais aussi dans sa vie. La pratique de la torture est connue et existe, précède à la guerre d'indépendance.
Elle est pratiquée par la police algérienne, la police en Algérie. Le gouvernement en est informé. Dans le cas des membres du MTLD, notamment des conseillers municipaux d'Alger dès fin 54, le gouvernement est tenu au courant. Il est précisément informé sur l'extension de cette pratique grâce à deux rapports qui lui sont rendus en mars 1955. Le premier, celui de l'inspecteur général de l'administration, Roger Vuillaume, décrit précisément les tortures pratiquées par la police. Roger Vuillaume dit qu'il agit et qu'il décrit ces choses dans le but, je le cite, de lever le voile d'hypocrisie dont on recouvre les procédés de police, qu'il estime par ailleurs dans son rapport pour certains nécessaires. Par la suite, alors que la répression est massivement confiée à l'armée, rares sont les documents aussi complets que le rapport Vuillaume ou le rapport Méret sur ces pratiques. Et les autorités politiques qui souhaitent obtenir des informations sur la pratique de la torture notamment, ont de grandes difficultés pendant toute la guerre à les obtenir. Cependant, des rapports officiels du Comité international de la Croix-Rouge ou de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, des enquêtes sur des affaires précises, des informateurs locaux et enfin des témoignages publiés dans la presse ou imprimés dans les maisons d'édition ne peuvent laisser aucun doute quant à la réalité de cette pratique. Les membres des gouvernements successifs en connaissent donc l'existence, parfois très précisément. Ils peinent cependant manifestement à en mesurer l'ampleur ou à vouloir la connaître. La torture doit être comprise, donc je l'ai dit, dans, d'une part, un contexte plus général, celui de l'histoire coloniale, d'autre part, le contexte plus précis de la guerre menée en Algérie. C'est sur celle-là que je voudrais revenir rapidement. En effet, les conditions dans lesquelles se déroule la guerre d'Algérie se caractérisent par une grande liberté prise avec le droit et par des violences courantes, flirtant souvent avec l'illégalité manifeste. Ainsi, dès le mois de mai 1955, c'est le redoutable principe de la responsabilité collective qui commence à se répandre en Algérie. Il est d'abord appliqué dans une région particulièrement innervée par le nationalisme, celle des Aurès Nemencha, où le général Parlanche décrète que le douar le plus proche d'un sabotage ou d'un attentat sera tenu collectivement responsable de l'attentat. Alors cette responsabilité collective se traduit le plus souvent par des corvées, par des amendes infligées donc à la population du douar le plus proche. Elle peut aussi aboutir à ce qu'une mission parlementaire de l'été 55 appelle des prises d'otages ou des bombardements de villages. Elle peut aussi aboutir à des représailles collectives qui, dans ce cas-là, se traduisent par des exécutions sommaires. Les parlementaires, dans leur rapport, désapprouvent ces pratiques et ils le disent non seulement pour des raisons d'ordre humain, je les cite, mais aussi pour des motifs d'ordre politique. Mais ils ne sont pas écoutés et, de fait, les hommes politiques sont divisés, sont partagés sur la question de cette responsabilité collective. Néanmoins, quand le général Cherrière, qui commandait l'armée d'Algérie, en avait fait part à son subordonné de Constantine, il avait précisé à ce sujet, il n'y aura pas d'instruction écrite donnée par le gouvernement. Le gouvernement, donc, ne peut pas assumer publiquement soutenir les représailles. L'armée d'Algérie sait cependant qu'elle a le soutien des principaux responsables politiques et avant tout du nouveau responsable de ces opérations, Maurice Bourgès-Monory, le ministre de l'Intérieur. Dès le 1er juillet 1955, il signe un texte fondamental avec le ministre de la Défense, le général Koenig. Il signe une instruction, je les cite, « visant l'attitude à adopter vis-à-vis des rebelles en Algérie ». Cette instruction généralise à l'ensemble du territoire algérien les conditions dans lesquelles la guerre a été jusqu'à présent menée dans le Constantinois. Elle prône une réaction militaire qu'ils appellent « plus brutale, plus rapide, plus complète ». Et il demande à chacun de faire preuve d'imagination pour appliquer les moyens les plus appropriés, compatibles avec leur conscience de soldat. Certains impératifs sont précisés. Je les cite encore. Tout rebelle faisant usage d'une arme ou abattu, une arme en main, ou en train d'accomplir une exaction, sera abattu sur le champ. Et surtout, le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir. Ce texte essentiel, en particulier cette dernière ligne que je viens de vous lire, indique clairement la généralisation très rapide à toute l'Algérie d'une guerre menée aussi bien aux rebelles armés, c'est-à-dire aux maquisards, c'est-à-dire finalement ceux qu'on considère des ennemis au sens traditionnel du terme, qu'à l'ensemble de la population algérienne, suspectés de soutenir ces rebelles. En effet, l'absence de définition claire dans les textes, dans les instructions, des mots « rebelles » ou des mots « suspects » laisse la porte ouverte à toutes les interprétations minimalistes comme maximalistes. Comme le rapporte un colonel chargé d'une enquête sur des exécutions sommaires dans un rapport donc à Robert Lacoste, le ministre résident un an plus tard, il écrit, quand il est arrivé dans la région pour enquêter, « À mon arrivée, à peu près partout, les gens se sont enfuis. Ils sont terrorisés, voilà tout. Et plus nous tirerons sur les fuyards, plus les gens s'enfuiront à notre arrivée. » Et il ajoute, « Il va falloir réviser profondément cette notion de tir sur les fuyards qui a très souvent besoin d'être précisée dans l'esprit d'un certain nombre d'officiers. » Et effectivement, l'autorisation de tirer sur les entre guillemets « fuyards » peut être lue comme une légalisation a priori des exécutions sommaires accomplies par les forces de l'ordre. Il suffit de déclarer que la personne était suspecte et qu'elle tentait de s'enfuir. Le soulèvement coordonné dont on vous a parlé régulièrement depuis le début de l'UTLS de milliers d'Algériens du nord-est constantinois le 20 août 1955, de fait, un mois et demi après, met fin à l'illusion que la révolte est limitée aux Constantinois et qu'elle est en voie d'extinction. Ce soulèvement est réprimé avec une grande violence, dont Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées terre, admet quelques mois plus tard, je le cite, qu'il n'est pas faux de parler de répression aveugle. Cette date est effectivement un tournant indéniable de la guerre. Elle est marquée par le rappel des réservistes, elle est marquée par des rafles dans l'émigration algérienne en France et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'Algérie. Néanmoins, il me semble important de noter que les principaux jalons d'une violence visant très largement la population algérienne sont posés antérieurement au 20 août 1955, puisque l'arbitraire des forces de l'ordre est autorisé antérieurement et que les militaires n'ont de compte à rendre à personne en cas d'exécution sommaire si elles sont maquillées en tentative de fuite ou tentative de fuite de suspect. Donc. L'année 1956, ensuite, marque néanmoins un nouvel enfoncement dans la guerre. Les partisans de la paix en Algérie ont remporté les législatives, vous le savez. Le socialiste Guy Mollet est chargé de diriger le gouvernement et décide de nommer le général Catrou à la tête de l'Algérie. Mais à la suite de son premier voyage à Alger, il change d'avis puisqu'il est conspué par la foule qui, sous la pression, l'amène à renoncer au général Catrou. Et c'est finalement Robert Lacoste qui reçoit cette mission et qui reçoit le titre éminemment important de ministre résident. Il est assisté des secrétaires d'État à l'intérieur et aux forces armées chargées des affaires algériennes. Outre les pouvoirs habituels des gouverneurs généraux d'Algérie, qui font de lui le dépositaire des attributions relevant normalement de l'exécutif parisien, mais en Algérie, Robert Lacoste reçoit de nouveaux pouvoirs. Ces pouvoirs, ce sont les pouvoirs spéciaux qu'il lui donne. Ils sont votés le 16 mars 1956. Le gouvernement, pour le vote de ces pouvoirs spéciaux, a dû poser la question de confiance. Car en l'absence de certitude sur la manière dont ces pouvoirs spéciaux seraient utilisés, des députés ont émis des doutes. Finalement, les affinités politiques l'ont emporté sur toute autre considération et les pouvoirs spéciaux ont été votés par 455 voix contre 76 et le Parti communiste en particulier s'y est rallié, au contraire des poujadistes, sceptiques sur les intentions réellement répressives du gouvernement. Celui-ci donc reçut ainsi les pouvoirs de légiférer par décret pour l'Algérie, dans le domaine du maintien de l'ordre, de l'économie et de l'administration. Le gouvernement ayant assuré qu'il lui était nécessaire, ses pouvoirs spéciaux, pour réaliser son programme qui était en deux temps, assurer l'ordre, promouvoir les réformes. Pour Robert Lacoste, cependant, c'est bien le premier axe, assurer l'ordre, qui prime. Celui qui aurait dû donc mettre en œuvre la nouvelle politique pour laquelle les électeurs avaient majoritairement voté en janvier, cessez-le-feu, élections, négociations, devient ainsi en réalité l'artisan principal d'une guerre de plus en plus dure où les pouvoirs civils sont progressivement, abandonnés par les civils aux militaires. Dans une lettre à Guy Mollet de juillet 1956, l'opposition de Robert Lacoste aux négociations est très nette. Il lui écrit « C'est une opinion erronée de croire qu'il est toujours possible et avantageux de négocier et que la négociation conduit naturellement à un accord. Cette opinion est partiellement responsable de la Seconde Guerre mondiale. La valeur de la négociation dépend des intentions des partis et de leur rapport de force, force politique, militaire et morale. Les intentions de nos vis-à-vis ne sont pas encore aussi claires et sincères que nous voudrions raisonnablement qu'elles soient. Notre force n'est pas encore, quelque envie qu'on en ait, suffisamment assurée. Il est donc nécessaire, conclut-il, de renforcer la position de la France sur le terrain militaire en priorité. Pour cela, une lourde décision a été prise dans la foulée des pouvoirs spéciaux en avril 1956, c'est donc le maintien ou le rappel sous les drapeaux des militaires des derniers contingents ayant été appelés pour faire leur service militaire. Ainsi, les effectifs en Algérie doublent rapidement. Tous les contingents donc doivent désormais partir, accomplir là-bas ce qui s'appelle encore des opérations de maintien de l'ordre, qui ne trompent plus personne à cette époque. De fait, le refus par le FLN en juin 1956 d'un cessez-le-feu préalable à toute négociation qu'exigeaient les autorités françaises a ouvert plus grande encore les portes de la guerre. Robert Lacoste, mais aussi Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées terres dont j'ai déjà parlé, Maurice Bourgès-Monory, qui devient ministre de la Défense, sont les trois maîtres d'œuvre français de cette guerre, même si Guy Mollet rappelle régulièrement qu'il y a une unité de son gouvernement, et il le dit dans un langage oral à un conseil des ministres, tout le monde est dans la même charrette. Il n'y a pas de politique Robert Lacoste. Il le dit plus précisément juste après qu'Alain Savary a démissionné en novembre 1956. Alain Savary, c'était le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il a démissionné pour protester contre l'arraisonnement illégal de l'avion transportant les chefs historiques du FLN en octobre 1956. Par cet acte, il affirmait assez nettement que pour lui, le respect de la légalité par les autorités primait avec l'unité gouvernementale. Plus exactement, cet acte indique à quel point le pouvoir politique était prêt à couvrir les actions des militaires. La démission du secrétaire d'État, acte de courage d'un homme fidèle à ses principes mais isolé, marque du coin de l'impuissance ceux qui espéraient faire entendre la voix du respect des lois, du respect du droit et du respect de l'homme dans cette guerre. Au sein de ces voix isolées, on en trouve une particulièrement, celle de Paul Tetjen. Vous le connaissez, l'homme est secrétaire général de la préfecture pour la police à Alger quand le ministre résident décide de confier au général Massu, commandant de la 10e DP, division parachutiste, la responsabilité du maintien de l'ordre dans le Grand Alger, ce qui signifie en particulier que le préfet lui confie ses pouvoirs de police. Cette décision, qui porte en germe des violations du droit accomplies avec la caution donc préalable des autorités civiles, s'appuie tout simplement sur l'article 10 du décret sur les pouvoirs spéciaux. Son application à Alger commence le 7 janvier 1957. Elle offre aux militaires une marge de manœuvre quasiment infinie. Alger est secoué par le terrorisme depuis l'automne 1956. Alger devient, à partir de janvier 1957, le champ d'expérimentation modèle d'une théorie développée par la nouvelle équipe à la tête de l'état-major d'Algérie, équipe dirigée depuis décembre par le général Raoul Salan. Raoul Salan, c'est un brillant officier supérieur qui vient d'Indochine où il a acquis la certitude qu'il était nécessaire d'adapter l'armée et ses méthodes aux ennemis qu'elle avait à affronter. En l'occurrence, dans une guerre analysée comme révolutionnaire, il était nécessaire d'utiliser des moyens révolutionnaires ou contre-révolutionnaires pour lutter contre elle. Ces moyens visent donc à répondre à l'adversaire sur la multitude des terrains que cet adversaire a choisi où il s'est installé. Au-delà donc des maquis, au-delà des affrontements traditionnels, c'est la population algérienne qui devient alors un véritable champ de bataille. Il faut la convaincre de participer à l'Algérie française et il faut surtout éviter qu'elle ne soutienne les ennemis de la France. À Alger donc, où les habitants algériens auxquels s'ajoutent les Européens suspectés de les soutenir, de soutenir les nationalistes, à Alger donc, où les habitants algériens sont globalement considérés comme favorables au FLN, les méthodes mises en avant par l'armée vont de la propagande à la disparition d'opposants, en passant par la détention arbitraire, l'intoxication de l'adversaire par agents infiltrés, etc. La torture est au centre de ce dispositif répressif. Alors que la guerre révolutionnaire menée par le FLN repose sur la terreur, ces théoriciens militaires prônent une contre-terreur que la torture permettrait de créer, afin de lutter donc à armes égales. Dans le cadre de cette guerre contre-révolutionnaire, le recours à la torture a en effet une double efficacité. Il permet éventuellement, et c'est ce qu'ils vous disent, d'obtenir des renseignements, mais il permet surtout de fonctionner comme un instrument de terreur sur la population. En effet, pour comprendre la torture, il ne faut absolument pas se limiter aux tortionnaires et à l'éventuel suspect qu'ils torturent. La torture, en effet, n'a de sens que si on se rend compte que ce suspect est membre d'un quartier, d'un réseau, d'une population plus généralement, d'un tiers qui se trouve à l'extérieur de la salle de torture et qui est finalement le destinataire de cette violence. C'est à ce tiers que l'on s'adresse en torturant la personne qui se trouve dans la salle de torture. C'est à ce tiers qu'on veut dire ce qu'il risque s'il passe du mauvais côté. Qui a le pouvoir en Algérie, finalement ? Cette analyse donc, d'une torture pour la contre-terreur est défendue notamment par le colonel Lacheroy, qui semble avoir reçu le soutien de Maurice Bourgès-Monory. Avec d'autres officiers proches du général Salan, il appelle de ses voeux la mise en place d'un bureau au sein de l'état-major qui soit chargé de l'action psychologique. C'est le cinquième bureau. Il est officiellement créé en janvier 1957. Ainsi donc, en janvier 1957, sont réunis les hommes, les structures et les soutiens politiques pour mener la guerre que les responsables de l'armée d'Algérie d'alors souhaitent. La nomination de Maurice Bourgès-Monory à la tête du gouvernement le 13 juin 1957 confirme encore, renforce cette orientation. Dans ce premier semestre 1957, en effet, la guerre s'est considérablement durcie, que ce soit dans les montagnes de Kabylie ou à Alger. L'armée française a eu recours à des méthodes de guerre totalement interdites, mais tolérées, voire encouragées, au nom de l'efficacité. La torture couplée aux arrestations arbitraires, aux internements administratifs, mais parfois aux internements totalement clandestins, couplée aux exécutions sommaires, assortie parfois de la disparition des corps ou au contraire de leur exposition. La torture donc est la pièce centrale de ce dispositif militaire validé par les autorités politiques. En juin 1957, deux décrets élargissent encore les pouvoirs de Robert Lacoste. En juillet, Maurice Bourgès-Monory demande aux députés la reconduction de la loi sur les pouvoirs spéciaux pour son gouvernement et il demande d'y ajouter l'extension de certains de ses pouvoirs au territoire métropolitain. Quand il vient soutenir son projet devant les députés, il développe un argumentaire très proche de celui des militaires sur l'inadaptation de la justice, en particulier au terrorisme auquel l'armée a à faire face. Et les députés alors, à l'image d'une opinion publique inquiète, des révélations, des témoignages qui se sont succédés depuis le début de l'année 57 sur les violences pratiquées par l'armée d'Algérie, les députés hésitent. Si la majorité d'entre eux, finalement, à l'exception des députés communistes et progressistes, soutient la reconduction, il est cependant nécessaire au gouvernement de poser la question de confiance pour obtenir l'adoption de la loi en ce qui concerne l'extension de certains pouvoirs spéciaux à la métropole. Ainsi donc, même si les pouvoirs spéciaux sont reconduits, un net malaise est visible chez certains députés et dans l'opinion au milieu de l'année 1957. En novembre 1957, comme la loi l'impose, le nouveau gouvernement, Félix Gaillard, doit lui aussi demander aux députés la reconduction des pouvoirs spéciaux. Et en novembre, comme en juillet, les députés s'interrogent. Cependant, les députés votent à plus de 60% la reconduction des pouvoirs spéciaux, ce qui marque une légère progression par rapport aux chiffres de juillet, au pourcentage de juillet. En fait, ce vote est trop important pour que les députés décident de fragiliser le pouvoir. En effet, depuis un mois et demi, la France n'a plus de gouvernement. Cependant, dans les semaines qui suivent, des députés demandent régulièrement au gouvernement de publier un rapport qui lui a été remis, qui a été remis à son prédécesseur, en fait, en septembre 1957. Ce rapport, c'est celui de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, qui devait enquêter sur la véracité des accusations portées contre l'armée française en ce qui concerne les tortures et en particulier les disparitions, et notamment celle de Maurice Audin. Donc ce rapport a été rendu au gouvernement, qui avait promis de le rendre public, il ne le rend pas public. Les députés le réclament et Maurice Dexon lui-même le demande au nom du groupe socialiste, donc à l'Assemblée. Finalement, il faudra que ce soit Le Monde, le journal Le Monde, qui le publie de son propre chef. Le gouvernement ne le fait pas. La fin de l'année 1957 est donc particulièrement agitée politiquement. En Algérie, l'armée se félicite d'avoir démantelé le réseau du FLN à Alger et de ses sympathisants. Mais cette action a laissé des traces profondes. L'opinion publique, informée des méthodes, est de plus en plus attentive à cette guerre qui n'en finit pas. En février 1958, l'armée embarrasse de nouveau le gouvernement, comme vous le savez, à Sakiet Sidi Youssef. Les Britanniques, les Américains s'en mêlent. La marge de manœuvre du gouvernement de Félix Gaillard est donc bien faible à ce moment-là. Il est obligé d'accepter les bons offices anglo-américains et il est renversé par l'Assemblée. Les désaccords donc sur la manière de conduire la guerre sont croissants en France. Cependant, en mai 1958, l'armée d'Algérie impose sa volonté, impose des comités de salut public sur tout le territoire algérien. Le 14 mai, le général Salan déclare assumer les pouvoirs civils et militaires afin d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens et la conduite des opérations. Le 21 mai, il crée un commandement civil et militaire dans chaque région et département d'Algérie. Ça veut dire que sont fusionnés pouvoir civil et pouvoir militaire. Le 9 juin, le général de Gaulle, appelé à la tête du gouvernement par René Coty, entérine ses décisions et le nomme général Salan, à la fois délégué général et commandant en chef des forces en Algérie, dépositaire donc des pouvoirs civils et militaires. L'autorité civile est totalement dépossédée. Les premiers mois de l'arrivée du général de Gaulle aux commandes du pays sont donc marqués par une très grande liberté de mouvement laissée aux militaires. En juin 1958, cependant, André Malraux, délégué à la présidence du Conseil, avait déclaré solennellement, au cours d'une conférence de presse, qu'aucun acte de torture ne devait plus se produire sur le sol algérien. Cependant, la nouvelle répartition des pouvoirs en Algérie ferme la voie à tout contrôle de l'armée par le pouvoir politique. Parallèlement, pendant que cette armée donc a de plus en plus de pouvoir, le pouvoir politique, et notamment le général de Gaulle, tente de s'informer précisément sur ce qui se passe en Algérie, et notamment sur la question des violences. Dès juillet, on a des traces d'intérêt du général de Gaulle pour la question qui veut savoir précisément de quoi il retourne. Il décide donc de réactiver la fameuse commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles qui était en sommeil, en fait, depuis qu'elle avait rendu son rapport. Et il choisit d'en changer le président et de nommer à sa tête un président de chambre de la Cour de cassation, estimant, je le cite, que cette mesure manifestera l'importance que le gouvernement entend attribuer à la commission de sauvegarde. C'est donc Maurice Patin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien directeur des affaires criminelles et des grâces du général de Gaulle à la Libération, qui se retrouve à la tête de cette commission qui va donc être pendant 4 années le canal d'information privilégié du gouvernement, en tout cas du général de Gaulle et du Premier ministre, sur les violences pratiquées par l'armée. On a donc 2 mouvements parallèles, d'une part concentration des pouvoirs civils et militaires aux mains du général Salan, d'autre part mise en place de réseaux d'information du pouvoir civil parisien sur la réalité de la guerre. Et ces 2 mouvements parallèles progressent pendant les premiers mois du gouvernement de Gaulle, tandis que se profile une nouvelle constitution pour la France. À la fin de l'année, l'équilibre des pouvoirs en Algérie, une fois que la Constitution a été approuvée par les Français, peut être modifiée par le général de Gaulle. Il enlève donc au général Salan les doubles pouvoirs. Il nomme à sa place un civil, Paul de Louvrier, délégué général en Algérie, et un autre militaire, le général Challe, commandant en chef. Donc il rétablit la division civile et militaire. Cependant, le départ du général Salan n'est pas pour autant synonyme de la fin de la guerre qu'il avait souhaité imposer en Algérie, cette guerre contre-révolutionnaire. Des hommes comme le colonel Lacheroy sont certes invités à quitter l'Algérie, mais les priorités, soutenues par Robert Lacoste dès 1956 et renforcées par l'arrivée au pouvoir du général Salan, demeurent inchangées. La première directive générale de 1956 fixait les priorités. Elles étaient les suivantes. L'anéantissement des groupements militaires, la destruction de la structure politique de l'adversaire. Elles n'ont pas changé en 1958, en 1959. Ce sont toujours ces 2 priorités qui guident les troupes françaises en Algérie. Si le général Challe propose de revoir la manière d'attaquer les troupes de l'ALN, il ne modifie en rien les méthodes employées pour obtenir des renseignements et plus généralement les méthodes pour terroriser la population. Au contraire, c'est en effet sous le commandement du général Challe et avec le soutien constant du ministre des Armées de l'époque, Pierre Guillaumat, que les détachements opérationnels de protection, les DOP, reçoivent une impulsion décisive. Ils sont présentés comme la réponse la plus adaptée à la forme de guerre à laquelle l'armée française est confrontée. En fait, ces DOP sont des cellules spécialisées dans l'obtention de renseignements à partir des interrogatoires des prisonniers ou des suspects. Leurs méthodes sont brutales, expéditives, incontrôlables. Peu à peu, ils en viennent à former une armée dans l'armée qui inquiète les autorités. Une branche à part, de plus en plus autonome, régie uniquement par le souci d'efficacité, efficacité qui, in fine, justifie leur statut exceptionnel. La délégation générale à Alger est consciente du danger que ces officines représentent. Elles sont effectivement le signe d'une véritable institutionnalisation de la torture au sein de l'armée d'Algérie. Néanmoins, le soutien du ministre des Armées et du général Chal les rend inattaquables. Après le départ de ces deux hommes, Pierre Guillaumat, le général Chal, leur position est fragilisée, mais les DOP arrivent encore à mettre en avant leurs spécificités, leur rapport à la victoire française pour se maintenir. De fait, malgré des tentatives certaines de ramener dans le rang ces services beaucoup trop autonomes, les DOP imposent leur fonctionnement et leur méthode jusqu'à l'ultime fin de la guerre. Ils sont dans une poche de non-droit absolu. Elle n'est pas résorbée. Au moins, tente-t-on progressivement, à partir du printemps 60, d'éviter que cette poche ne s'élargisse à l'ensemble de l'armée d'Algérie. 1960 est en effet une année charnière. En janvier 1960, le général Massu est sorti de la réserve qu'on attend de sa fonction pour déclarer à un journaliste allemand qu'il doutait du général de Gaulle. Il a même menacé le pouvoir d'une nouvelle intervention de l'armée pour infléchir la politique menée. Il est immédiatement rappelé en France. Le soulèvement qui s'ensuit dans le milieu européen pro-Algérie française d'Alger fournit aux autorités politiques l'occasion d'une clarification des places et des rôles de chacun. Le printemps 60 est donc celui d'une réorganisation des choses. Le cinquième bureau est rapidement dissous. Les principaux théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire encore en exercice en Algérie sont remerciés. Les DOP font l'objet d'une surveillance accrue. Néanmoins, si les structures de la guerre nouvelle, voulues par l'état-major, instaurées peu à peu depuis 1957, sur un terreau antérieur, je le rappelle, et grâce aux libertés laissées à l'armée depuis l'état d'urgence, depuis les pouvoirs spéciaux, donc si ces structures sont peu à peu attaquées par le pouvoir civil, les arguments qui les avaient justifiés demeurent. La guerre est toujours menée dans la population, de fait, et la population reste l'enjeu majeur d'un affrontement plus que jamais politique, alors que le général de Gaulle a accepté et proposé progressivement la voie de l'autodétermination, puis des négociations de l'indépendance. La lutte contre les violences illégales de l'armée, qui commence donc à prendre de l'ampleur à partir du printemps 60, doit donc être comprise dans cette perspective beaucoup plus globale. Il s'agit de contrôler l'armée, contrôler une armée que des missions souvent trop politiques ont pu éloigner de son simple rôle d'agent de l'État. Il s'agit d'éviter que les violations manifestes du droit et des principes affirmés par la France, violations donc perpétrées par l'armée, que ces violations ne deviennent une arme utilisée par le FLN contre la France. Ainsi, la justice est réaffirmée. En Algérie, on installe des procureurs militaires, qui sont des magistrats, chargés de seconder les troupes au plus près du terrain. L'idée est de lutter ainsi contre les illégalités commises par les militaires. Mais de fait, cette institution des procureurs militaires va largement aider l'armée dans sa lutte contre le nationalisme sans véritablement servir de moyen de contrôle des pratiques des militaires. Le Premier ministre Michel Debré avait pourtant souhaité, dans une lettre au délégué général Paul de Louvrier, je le cite, que cette réforme, c'est-à-dire l'instauration des procureurs militaires, est pour corollaire l'application, en toutes circonstances, d'un traitement humain aux personnes appréhendées et la disparition totale du recours pendant leurs interrogatoires à des méthodes de coercition physique, quelles qu'elles soient. Le propos du Premier ministre est totalement sans équivoque. Je le cite, « L'emploi de méthodes inhumaines dans la répression compromet l'œuvre de pacification, est incompatible avec l'honneur de ceux qui y recourent et nuit au renom de la France. » La lutte contre les illégalités de l'armée obéit donc à un souci d'efficacité politique. Elle rencontre un écho auprès des représentants militaires en Algérie. Alors que Paul de Louvrier a attendu que l'institution des procureurs militaires soit bien en place pour transmettre l'instruction du Premier ministre, le général Crépin, quand il la diffuse, indique à ses subordonnés qu'il partage tout à fait le point de vue du Premier ministre. Il n'est pas obligé d'ajouter quelque chose à l'instruction, mais il le fait. Il précise donc longuement à quel point il est d'accord. Ainsi, il explique, je le cite, « Le développement des campagnes sur les tortures, entre guillemets, fondée sur quelques faits, peut avoir de graves conséquences sur l'état d'esprit de la nation vis-à-vis de l'armée. C'est ainsi que la campagne sur l'insoumission s'est greffée et appuyée sur celle des tortures. Je vous demande donc de veiller à l'exacte exécution de ces directives et au respect de la régularité des procédures à tous les stades. Donc la position du commandant de l'armée d'Algérie de cette époque est explicitement politique. C'est son interprétation de la situation qui le fait choisir de diffuser l'instruction du Premier ministre en incitant ses subordonnés à l'appliquer. Je dis qu'il le fait choisir de diffuser car effectivement, quand il ne veut pas diffuser une instruction, le général Crépin ne la diffuse pas. On a en effet le cas d'une instruction qu'il a refusé de diffuser. C'est une lettre, en fait, de son ministre, Pierre Messmer, en juillet 1960. Une lettre dans laquelle Pierre Messmer voulait lutter contre les exécutions sommaires maquillées en tentatives d'évasion ou tentatives de fuite, dont, je crois vous l'avoir dit, a été une tentative qui avait été pourtant largement légitimée a priori dès juillet 1955. Donc Pierre Messmer veut lutter contre ces exécutions sommaires. Il écrit « Je souhaite que soient rappelées à tous les échelons du commandement les règles impératives qui doivent présider à la sauvegarde des personnes arrêtées et détenues par l'armée. Et le ministre est obligé de rappeler que le port de menottes peut être une solution pour éviter la fuite, que le choix d'une escorte armée peut aussi éviter la fuite. » Or, le général Crépin, sans en informer son ministre, lui désobéit et n'informe pas ses subordonnés de cette lettre. Il ne tente en rien de limiter ses exécutions sommaires. Ce n'est que quand il part que son successeur, le général Gambier, les trouve, retrouve la lettre et la diffuse alors. On est donc au printemps 1961, quand, au bout de 7 années de guerre, arrive aux troupes en Algérie l'interdiction de pratiquer des exécutions sommaires. 2 mois après, Alger est le théâtre du putsch, réalisé par un ancien chef d'état-major de l'armée, général Zeller, par l'ancien responsable de l'aviation en Algérie, le général Jouot, et par 2 anciens commandants en chef de l'armée d'Algérie, les généraux Salan et Chal. Général Chal, dont le prestige est encore immense, 1 an après son départ. Donc les 22 et 23 avril 61, ces 4 hommes sont les maîtres d'Alger. La foule européenne les acclame, mais l'armée ne les suit pas. En métropole, le désaveu est encore plus grand. Soutenu par la population, le général de Gaulle décide de recourir à l'article 16 de la Constitution. 150 officiers sont traduits devant des tribunaux spéciaux. 534 officiers et sous-officiers sont touchés par des sanctions disciplinaires. Les 3 régiments parachutistes leaders du mouvement sont dissous. Après l'échec du putsch, Salan et Jouot choisissent la clandestinité et l'organisation armée secrète. De nombreux militaires en désaccord avec l'évolution politique en Algérie quittent alors l'armée. D'autres rejoignent aussi les rangs de l'OAS. Ce que le putsch a révélé, c'est un désarroi chez certains officiers. Une fiche sur le moral de l'armée en mai 1961 est tout à fait explicite à ce sujet. Le pouvoir politique, dit cette fiche, est tenu pour responsable de la crise des relations entre l'armée et la nation. Et la fiche précise, je la cite, « Pour arriver au succès en Algérie, les officiers ont admis des procédés dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont contraires à la dignité de l'homme et que les directives du chef de l'État ont été systématiquement ignorées. » La fiche précise, la politique du chef de l'État en Algérie est jugée par ses officiers, antinationale. De fait, au printemps 1961, il n'est plus question de l'Algérie française, mais de dialoguer avec les représentants du futur État algérien indépendant. En mai, les opérations offensives sont officiellement interrompues, le jour de l'ouverture des négociations à Évian. Mais en réalité, l'armée ne baisse pas la garde aux frontières. Elle est toujours autorisée à mener sa guerre. Elle est toujours autorisée, de toute façon, à mener la guerre du renseignement contre la structure politique et administrative du FLN. De fait, l'interruption des opérations offensives elle-même est rapidement abandonnée. La guerre continue jusqu'en mars 1962. Le cessez-le-feu du 19 mars ne met pas un terme pour autant aux violences illégales. Cependant, il a une importance pour l'amnistie qui lui est corrélative et dont je vais vous parler. Jusqu'au 19 mars 1962, la torture était interdite par le droit. Interdite par la discipline. Et pourtant, très rares sont les sanctions qui ont été prises. Très rares sont les condamnations qui ont été déclarées. De fait, la majorité des plaintes ne sont pas arrivées jusqu'à la justice. Et je voudrais juste citer un exemple extrêmement symbolique de janvier 1962. Donc on est à l'ultime fin de la guerre. En janvier 1962, le tribunal militaire de Paris, le tribunal permanent des forces armées de Paris, acquitte trois officiers qui ont reconnu avoir torturé à mort une jeune Algérienne en 1960 à Alger. Ils l'ont reconnu et ils sont cependant acquittés. Le tribunal militaire, à mon sens, refuse ici très clairement de faire des boucs émissaires. Cette décision provoque la protestation de nombreuses personnalités. Elle conduit le ministre des Armées, dont la volonté de sanctionner les illégalités est manifestement bafouée par les juges militaires. Elle le conduit donc à former un recours devant la Cour de cassation. Effectivement, le recours est obtenu. Le jugement du tribunal est cassé en juillet 1962. Cependant, en juillet 1962, cela ne sert plus à rien. L'amnistie corrélative du cessez-le-feu amnistiait en effet, je la cite, « les faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne ». La question donc des responsabilités individuelles des auteurs de crimes ou de délits dans le cadre des dits événements d'Algérie ne pouvait donc plus jamais être posée dans un cadre judiciaire. Celle des hommes et des institutions qui les ont envoyés faire la guerre ne peut plus non plus être posée. Pour finir, je voudrais vous rappeler qu'en juin 1999, à l'unanimité, les députés français ont reconnu qu'il s'agissait d'une guerre en Algérie. Jusqu'à présent, ils ne se sont encore jamais penchés sur la manière dont les soldats de la République avaient été chargés de la mener, cette guerre. Merci.
Je voulais vous poser une question par rapport aux militaires donc, qui ont pratiqué la torture. J'imagine qu'un grand nombre d'entre eux ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qu'un certain nombre d'entre eux ont dû être donc, dans les réseaux de la résistance. Comment se fait-il qu'il y en ait eu si peu, à part, je crois, le général de la Bollardière, qui ait eu une telle conscience, enfin, qui ait eu un cas de conscience et qui ait décidé de démissionner. Donc, comment se fait-il qu'il y en ait eu si peu ?
En fait, il y en a eu si peu qui ont été si loin, aussi loin que le général Paris de Bollardière, qui sont allés jusqu'à rendre public leur désaccord. Mais ils ont sans doute été nombreux à être choqués et à refuser d'employer ces méthodes. Ils n'ont juste pas jugé nécessaire de le rendre public, mais il y a une nuance à faire. Ils ont été nombreux à refuser sans doute, sans être pour autant des résistants. Les choses sont plus complexes. Il ne suffit pas d'avoir été résistant pour être sensible à la torture et inversement.
Oui, j'aurais trois petites questions. Très courtes. Hein.
Très court.
Que pensez-vous justement de la torture ? L'utilité de la torture des soldats français en Algérie ? C'était pour s'amuser ou pour éviter d'autres morts ? Première question. Deuxièmement, avez-vous entendu parler d'une lettre qui est adressée par le général de Gaulle au général Massue, lui demandant de ne plus torturer gratuitement. Troisièmement, que pensez-vous du procès du général Ossarès qui s'est déroulé dernièrement au palais de justice de Paris ?
Non, je ne connais pas cette lettre de De Gaulle à Massue, mais je serais ravie que vous m'en parliez. Quant à votre alternative, s'amuser ou éviter d'autres morts, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que les choses puissent être posées. Et je crois avoir dit ce que je pensais de l'utilité de la torture, la manière dont l'armée française la jugeait éventuellement utile. Quant au procès du général Ossarès, je crois qu'on est un peu loin du sujet.
Il me semble que dans votre conférence, il y a des choses qui ont été occultées.
Là, j'ai dit une question aussi.
La première, c'est quand même l'intervention du général de Gaulle quand il est venu en Algérie et qu'il a crié « Vive l'Algérie française !» Ça couvrait quand même déjà l'armée française. La deuxième, vous avez occulté les événements du 26 mars 1962, où l'armée française, ou dite française à ce moment-là, a tiré sur des gens absolument désarmés. Ne parlons pas du 5 juillet 1962 à Oran, où il y a eu des centaines, sinon des milliers de gens qui ont été massacrés sous les yeux de l'armée française, commandé à ce moment-là par feu le général Katz, qui habitait le 16e il n'y a pas encore longtemps avant de mourir, et qui a laissé faire sans rien dire. Et puis, vous avez dit aussi qu'à partir de 1961, il n'y avait plus de torture. Évidemment, il n'y avait plus de torture d'un côté, mais il y en avait de l'autre côté, et celle-là, on n'en parle pas. C'est tout ce que je pouvais vous dire.
Si c'est ce que vous avez compris, j'ai pas dit qu'il y avait plus de torture à partir de 61. C'est en tout cas pas du tout ce que je pense. Au contraire, jusqu'à la fin, il y en a. Non, c'est vrai que mon intervention avait un objet qui était limité, qui était la lutte contre le nationalisme algérien. Ce que vous dites est juste. Les ambiguïtés du général de Gaulle, ses déclarations pour l'Algérie française, ses positions effectivement à l'été 58, qui sont ambiguës et qui demeurent pendant un certain temps, bien sûr. Mais je ne pouvais pas tout dire.
Je voudrais vous demander quel type de documents vous avez utilisé dans vos recherches, et notamment si vous avez eu accès à ces notes manuscrites auxquelles a fait allusion le Osares, aussi bien dans l'émission de Patrick Rothman ces jours-ci que dans son livre. Savoir si ces archives ont existé, savoir si elles sont détruites, on peut y avoir accès, et corollaire de cette question, est-ce qu'un jour on saura comment et où a disparu Maurice Audin. Je pense que Josette Audin, qui est à mes côtés, a le droit de savoir. Merci.
Les archives, ça serait un peu long de vous répondre, mais j'en ai vu beaucoup, tant dans les archives militaires que les archives ministérielles, que des archives privées. Pour ce qui est du manifold du général Osares, non, je ne l'ai jamais croisé. Cependant, je crois qu'on peut faire l'histoire sans ce manifold. On peut faire l'histoire de la bataille de l'Alger, du rôle du général Osares, mais pas uniquement de lui, enfin du commandant Osares. On peut faire l'histoire des régiments parachutistes à Alger sans le manifold. Ça serait bien qu'on l'ait, mais enfin, heureusement, on peut travailler aussi avec des archives autres. Quant à la vérité sur Maurice Audin, dans les archives, je n'ai pas trouvé d'éléments supplémentaires à ceux que Pierre Vidal-Naquet avait trouvés dans les archives de la justice, notamment depuis les années 80. Peut-être un jour, toujours, tant que des gens sont vivants, tant que des gens pourront nous parler, on pourra apprendre des choses. Je ne suis pas sûre que dans les archives écrites qu'on verra d'ici peu, il y aura des choses.
Dans quelle mesure estimez-vous pertinent en tant qu'historienne de comparer cette pratique française de la torture en Algérie à la pratique nazie de la torture dans les pays occupés par le Reich, puisque vous êtes chercheur associé à l'IHTV, donc vous avez beaucoup de collègues qui travaillent. Je pense que vous avez dû avoir beaucoup d'échanges.
Je trouve que les comparaisons, c'est très dangereux en histoire. Ça peut être fécond. Ça peut être fécond, éventuellement, on peut y repérer des choses. En l'occurrence, celle-là ne m'a intéressée que pour une chose, parce que les hommes l'avaient dans la tête, parce que certains l'avaient dans la tête. Ils y ont pensé, ça a éventuellement provoqué des malaises ou des sentiments de ne pas vraiment être à sa place. Mais d'un point de vue de ce que j'écris sur ce sujet, sur cette pratique, au fond, ça ne fonctionne pas du tout. On est dans une république, c'est quand même une énorme différence.
Est-ce que vous avez, dans votre étude, regardé un peu ce qui s'est passé en amont? Parce que cette pratique d'investigation remonte probablement bien avant. Est-ce que l'Indochine n'a pas été la précédente application?
Oui, bien sûr. On ne peut pas commencer en 54. On ne peut pas commencer à travailler sur l'Algérie en 54. Il faudrait sans doute remonter en 1830 pour être juste. Et si on s'intéresse, comme je l'ai fait, à la manière dont une armée réagit face à un conflit de ce type, évidemment, l'Indochine s'impose. Ceci dit, je n'ai pas pu travailler sur l'Indochine et je ne connais personne qui travaille sur cette question. Mais les témoignages qu'on a, les quelques récits qui sont connus et que vous pouvez connaître aussi, attestent de cela. Plus précisément, un certain nombre de sous-officiers et d'officiers français qui étaient en Algérie avaient été en Indochine et très clairement en ont ramené des réflexes.
Pouvez-vous nous indiquer les conditions et les raisons pour lesquelles le vote de l'amnistie a été pris si rapidement ?
L'amnistie est corrélative du cessez-le-feu. Ils y pensent assez rapidement dans les négociations. Je ne peux pas vous éclairer davantage. Non, je suis désolée.
Raphaël Branche, je vous remercie.